Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
On a entendu votre voix, vous avez déjà fait non. Bonjour Antoine Janton.
Oui, moi aussi j'ai dit non.
Je sais, encore même plus fort que Louise.
Salut Philippe.
Au sommaire de votre journal des médias.
Samuel Etienne quitte Twitch provisoirement. Un nouveau président pour la chaîne publique Sénat. Une nouvelle plainte pour agression déposée par un journaliste. Et puis un formidable documentaire sur Simone de Beauvoir.
Mais d'abord, les audiences avec vous Louise. Qu'ont regardé les Français hier soir?
TF1, la suite de Léo Mattei, comme la semaine dernière. Hein. C'était la suite de la saison 8. La moyenne des deux épisodes inédits a attiré 5 360 000 téléspectateurs, 25% de part d'audience. Très très beau score. C'est mieux encore que le lancement la semaine dernière. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ouais. Puis c'est le film d'M6 qui marche très bien, Le Chant du Loup, formidable film si je puis me permettre. Ouais. 3 800 000 téléspectateurs, 17,3% de part d'audience. Très très joli score aussi. Et donc le film de France 3, La Vache, s'en sort pas si mal finalement. 2 150 000 téléspectateurs, 9,3% de part d'audience. Et je vous donne quand même le score catastrophique de Vous avez la parole. 1 038 000 téléspectateurs, si on veut être exact, 4,5% de part d'audience. C'est tout simplement le pire score de l'émission depuis sa création il y a 2 saisons.
Et je veux dire juste un tout petit mot sur l'épisode de Léo Mattei. On avait reçu Jean-Luc Reichmann ici et il nous avait fait porter notre attention sur ces épisodes-là parce que c'était avec des enfants handicapés. Il avait refusé que ce soit des enfants valides qui jouent les rôles d'enfants handicapés. Il y avait des séquences absolument très très émouvantes où on ne savait pas ce qui allait se passer.
Culture Média.
Pardon pour cette incise. Avec vous, Antoine Janton, Samuel Etienne qui fait une pause.
Oui, pas à la télévision, mais sur Twitch. Le journaliste et animateur y proposait tous les matins une revue de presse, la matinée Etienne, attention, jeu de mots. Et c'est lors de ce rendez-vous hier qu'il a annoncé sa décision à ses abonnés.
Là, ça fait 4 mois de stream, hein, quasiment en compte rond. 4 mois de stream, ça fait près de 400 000 followers. Waouh, wow, génial. Ça fait plus de 4 millions de vues. Et ça fait 4 mois très intenses, ça a été génial, mais ça a été beaucoup de travail, en plus de mes 2 autres jobs, question pour un champion France Info, et de mon 3e qui est encore plus important que tout, c'est de m'occuper de mes petits loulous et de la vie de famille. Et donc je vais faire une petite pause dans le stream de quelques semaines, à minima. Voilà. Donc ce matin, c'est mon dernier stream avant un petit moment. Parce que je sens que j'ai beaucoup donné, que c'était super, mais que je ne suis pas Terminator, que je ne suis pas une machine.
Voilà, il faut dire que Samuel Etienne a un emploi du temps très chargé. Il présente chaque jour la matinale de la chaîne France Info et l'émission Question pour un champion sur France 3. Il est très occupé donc, et il pourrait l'être encore plus. Il y a quelques jours, il a annoncé une nouvelle aventure professionnelle à ses abonnés sur Twitch, sans donner plus de précisions.
Peut-être télématin, hein, puisqu'on sait que le Parisien a annoncé qu'il y avait un changement à la tête de la présentation, le départ de Laurent Bignolas, donc peut-être que Samuel Etienne...
C'est une bonne
Exactement, notamment que le Parisien parlait d'un candidat à forte sympathie. Peut-être qu'il s'agissait de Samuel Etienne.
Et de toute façon, il se lève déjà tôt puisqu'il fait la matinale sur France Info,
voilà,
le canal 27.
C'est un transfert d'une chaîne à l'autre.
Exactement.
Public Sénat change de président.
Ouais, c'est Christopher Baldelli, ancien directeur de France 2 et ex-patron de RTL, qui va diriger la 2e chaîne parlementaire, la première CLCP, à partir du 1er juin. Il va remplacer Emmanuel Kessler, dont la candidature à un 3e mandat n'a pas été retenue. Autre candidat malheureux, Damien Fleurot, le chef du service politique de CNews.
Et le focus programme du jour, c'est sur Public Sénat, justement, ou alors hasard de la programmation, c'est un documentaire consacré à Simone de Beauvoir.
Il n'y a jamais de hasard, Philippe. À l'occasion des 35 ans de la disparition de Simone de Beauvoir, un portrait de cette icône du féminisme, une des plus grandes autrices et philosophes françaises, à qui l'on doit entre autres Le Deuxième Sexe, un essai féministe traduit en 121 langues, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Un féminisme très concret, comme l'explique le documentaire extrait.
Elle parle de la charge mentale, de la double journée, des hommes qui ne font rien, ou si peu à la maison.
Et si les femmes faisaient de la révolution sur ce plan-là, sur le plan du travail ménager, si elles le refusaient, si elles obligeaient les hommes à faire avec elles, eh bien, si ceci était changé, toute la société en serait bouleversée.
Elle analyse le machisme ordinaire, la femme objet, réduite à un trophée, à un appareil reproducteur. Dans les pudibondes années 50, elle n'hésite pas à parler des règles, du clitoris. Elle assume sa liberté sexuelle.
C'est-à-dire que moi aussi j'ai bien aimé ne pas être monogame, finalement.
Mais comment a-t-elle conquis sa liberté? Car elle n'est pas née Beauvoir, elle l'est devenue.
Voilà, comment Simone est-elle devenue Beauvoir? Exactement, c'est ce que raconte ce documentaire à travers les combats qu'elle a menés, des combats encore d'actualité. Et c'est là tout l'intérêt du film. Fabrice Gardel, co-réalisateur du documentaire.
Elle disait, il suffira d'une crise politique, économique ou sociale pour que les droits des femmes soient remis en question. Et je pense qu'on y est quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, quand on voit ce qui se passe en Pologne, le retour sur l'IVG, la crise économique, les femmes sont les premières à trinquer. Et je trouve qu'elle peut nous aider à vivre aujourd'hui, au moment où il faut se battre pour le droit des femmes, et j'ai voulu la mettre en honneur. Et je suis très attentif au fait de montrer que les combats de Beauvoir sont des combats mondiaux. Elle peut aider les femmes en France, mais elle peut aussi aider les femmes dans le monde arabe ou aux États-Unis.
Alors le documentaire retrace la vie de Simone de Beauvoir de manière chronologique, avec le regard de plusieurs femmes, dont Leïla Slimani, Titiou Lecoq et Elisabeth Baninter, et aussi et surtout grâce à des archives où on découvre une Simone de Beauvoir bien différente de l'image qu'on peut avoir d'elle.
On la prend souvent pour quelqu'un d'un peu sec et d'un peu dur. En fait, elle était quand même très très rigolote, très humaine. C'était très important pour moi de montrer que Sartre, comme elle, était avant tout des gens très rigolos. Il faut arrêter de penser que les intellectuels sont des gens sinistres, enfermés dans une bibliothèque. Ils picolaient beaucoup, ils dansaient. Elle a couché avec des garçons et des filles. Et elle a eu une vie très, très drôle et très sympathique. Moi, mon ambition, c'est de raconter les intellectuels comme des rockstars. Et je pense que Beauvoir est une rockstar, comme Camus était une rockstar.
Voilà, et pour accompagner cet esprit rockstar, le montage est très moderne, très pop, portrait d'une femme libre et inspirante. Donc samedi soir sur Public Sénat à 21h, samedi c'est demain, Beauvoir, l'aventure d'être soi de Fabrice Gardel et Mathias Wechsler.
Dans l'actu média également, l'adoption définitive d'un texte dont on a beaucoup parlé à l'automne dernier.
Il s'agit de la proposition de loi dite sécurité globale et plus particulièrement d'un de ses articles, l'article 24 qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. Article qui a été réécrit pour le faire sortir du droit de la presse, mais qui continue à susciter la colère des syndicats de journalistes. Le SNJ, par exemple, qui estime que ce texte va créer de l'autocensure dans les rédactions et empêcher les journalistes de faire leur travail. Il a annoncé son intention, avec d'autres organisations, de saisir le Conseil constitutionnel.
Un syndicat agricole condamne le sabotage de la voiture de la journaliste Morgane Large.
Oui, il s'agit de la section bretonne de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Elle a condamné hier ce qu'elle appelle les actes malveillants dont la journaliste a été victime. Cela dit, la FRSEA Bretagne affirme qu'elle n'en est pas responsable. Morgane Large avait affirmé avoir été désignée comme cible après qu'une photo d'elle avait été publiée sur le compte Twitter de l'organisation agricole. Morgane Large qui a porté plainte avec RSF, c'était mardi.
Autre affaire, autre plainte en Isère.
Oui, plainte déposée là encore par un journaliste d'un hebdomadaire local, le Mémo de l'Isère. Il affirme avoir été agressé par un agriculteur alors qu'il était en reportage. Il prenait une photo de son champ qui est au centre d'un conflit entre partisans et opposants à l'installation d'une piste ULM.
Une image d'espoir, image récompensée par le World Press Photo.
Un prestigieux prix remis hier au Danois Mats Nissen pour une photo prise au Brésil en août dernier. On y voit une dame âgée enlacée par une infirmière, protégée elle par du plastique. C'était la première étreinte en 5 mois pour cette femme de 85 ans, pensionnaire d'une maison de repos à São Paulo. Une image que vous pourrez voir sur europe1.fr. Les équipes du web vont la mettre en ligne dans les minutes qui viennent. Vous pourrez la retrouver aussi dans la newsletter média d'Europe 1. Newsletter gratuite, il suffit d'aller sur le site pour vous y abonner.
Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louise Bernard, merci encore pour ces audiences. Vous n'y êtes pas pour rien, on se retrouve lundi, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias, Culture Média continue.